Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et société.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre des balados OIC, nous vous proposons deux épisodes distincts. Il s'agit de conférences qui ont été données dans le cadre des séminaires mensuels du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes, lors d'une séance intitulée « Jugements et préjugés » qui s'est tenue le 31 mai 2023 et réunissait Karine Rosso et Mathilde Baraban. Dans ce premier épisode, Karine Rosso aborde la représentation des femmes latino-américaines dans trois romans québécois, « Les créatures du hasard » de Lula Carballo, « Là où je me terre » de Caroline Dawson et « La banalité d'un tir » de Mali Navia. Karine Rosso est cofondatrice de la librairie féministe Le Guélion et professeure au département d'études littéraires de l'UQAM. Elle s'intéresse à la figure de l'autrice dans l'autofiction et aux différentes représentations des femmes racisées dans la littérature contemporaine. Elle a publié un premier roman, « Mon ennemi Nelly » en 2019, et une correspondance d'essai avec Nicolas Dawson, « Nous sommes un continent », correspondance mestiza en 2021. Je vous laisse donc avec Karine et je vous souhaite bonne écoute.
Dans le cadre d'un dossier de la revue Tangence sur la jeune fille, en fait, je m'étais intéressée plus précisément à la figure de la jeune fille latino-américaine dans deux romans québécois, soit « Soudain le Minotaure » de Marie-Hélène Poitras et « Quelque part en Amérique » d'Alain Beaulieu. Donc, mon but était alors d'observer dans ces deux romans publiés au début des années 2000 et qui réunissaient à eux seuls, il faut le dire, le plus d'une dizaine de personnages de femmes provenant du sud du continent. Donc, mon but était à l'époque d'analyser la façon dont ces jeunes filles étaient représentées. Je cherchais également, et assez naïvement, je dois le dire, à évaluer si ces représentations étaient empreintes de préjugés et correspondaient à certains mythes historiquement associés à la figure de la señorita ou de la Latina girl. Donc, à l'aide des études sur la représentation des Latines faites aux États-Unis par Guadalupe Cortina et de la notion d'intersectionnalité développée par Kimberly Crenshaw, je découvrais alors que la grande majorité des personnages analysés reproduisaient une certaine image de la Latina girl, laquelle est très souvent représentée comme une travailleuse du sexe ou une travailleuse domestique. La mise en parallèle des analyses permettait également de dégager plusieurs similarités sur le plan de la représentativité. Les jeunes filles latino-américaines étaient souvent décrites comme des victimes. Aucune n'était complètement libre d'agir. Aucune n'était en position de savoir ou d'autorité. En outre, elles se situaient fréquemment à l'intersection des préjugés envers les Noirs et les femmes, ce qui les plaçait dans une position doublement défavorisée. Mais à l'heure où on assiste à la présence grandissante d'une nouvelle génération d'écrivaines d'origine latino-américaine dans le champ littéraire québécois, j'ai eu envie d'aller voir si le portrait de la femme latino-américaine avait changé. Certes, j'aurais pu comparer cette représentation avec celle effectuée par une première génération d'écrivains latino-américains. Je pense à Gloria Escomel, qui a déjà été chargée de cours ici, mais Flavia Garcia, Mauricio Segura, Sergio Coquis, Hector Ruiz, etc. Mais j'ai plutôt choisi d'analyser des romans écrits tout récemment par des jeunes écrivaines qui revendiquent leur origine latino-américaine pour voir si la représentation des Latinas était foncièrement différente ou si elle prolongeait les constantes déjà observées. Je suis donc plongée dans la relecture de trois romans publiés dans les cinq dernières années qui ont connu un certain succès, soit « Créatures du hasard » de Lula Carballo ou Carballo et « La banalité d'un tir » de Mali Navia, tous deux écrits dans le cadre d'une maîtrise en création à l'UQAM, ainsi que le désormais célèbre « Là où je me terre » de Caroline Dawson, vendu à plus de 40 000 exemplaires au Québec et suivi tout récemment par le recueil de poésie « Ce qui est tu », publié aux éditions Triptyque et dont il sera vraiment très brièvement question aujourd'hui, mais je vais quand même citer quelques extraits. Donc, comme la première fois, je cherchais assez naïvement encore à évaluer si ces représentations avaient évolué ou si elles correspondaient toujours à certains mythes historiquement associés à la figure de la señorita. Et vous allez voir que les réponses que j'ai trouvées sont plutôt étonnantes parce que même s'il s'agit d'analyses préliminaires qui doivent encore être interprétées, elle semble pointer parfois vers la réaffirmation de certains truismes précédemment observés, et ce à différents niveaux, dépendamment du récit, là, on y reviendra. Je peux quand même affirmer d'emblée que que les représentations les plus diversifiées des femmes latino-américaines se situent dans l'ouvrage de Lula Carvalho, pour la simple et bonne raison que c'est dans cette fiction qui se passe totalement en Amérique du Sud, et plus précisément en Uruguay, que l'on observe la plus grande quantité de personnages féminins. En effet, dans Les créatures du hasard, publié en 2018 à la suite d'un mémoire en création à l'UQAM, donc, l'autrice, arrivée à l'âge de 15 ans au Québec, a volontairement décidé d'écrire une généalogie au féminin, de laquelle les hommes de la famille ont été écartés. Dans ce récit délibérément matrilinéaire, on retrouve donc Léo, l'arrière-grand-mère de la narratrice, qui est la matriarche d'un clan où évoluent ses filles, ses petites filles et ses brus, qui ont en commun la passion pour les cartes, les roulettes, les tirages, etc. Or, même si l'addiction aux jeux de hasard est, selon la narratrice, une maladie familiale qui se propage dès le plus jeune âge, toutes les femmes de la famille n'en sont pas également atteintes. Seule la mère et la grand-mère de la narratrice sont décrites comme des joueuses compulsives, prêtes à imposer un jeûne forcé à l'enfant ou à contracter des dettes avec les voisines ou l'épicier. À la mort de la grand-mère Regina, il est même dit qu'aux funérailles, personne ne présente de condoléances à la mère parce qu'elle devait de l'argent à tout le voisinage. Et ses prêteurs attendris lui donnaient la moitié de son salaire. Il était impossible donc de lui faire avouer que ses emprunts échouaient invariablement au casino, fin de la citation de Caravaggio ici. Le personnage flamboyant de la grand-mère Regina, qui achète des vêtements à crédit et reçoit des hommes inconnus dans sa minuscule demeure, côtoie une constellation de personnages féminins qui nous est présentée à la fin de l'ouvrage sous la forme d'un arbre généalogique dont la représentation graphique met au jour la présence-absence de ces hommes inconnus. Moi, je les ai soulignés ici là, en bleu, mais voyez ici en leur importance. Dans l'essai qui accompagne sa création, Lula Carvalho explique d'ailleurs que la structure du récit laisse sous-entendre l'existence de ces hommes absents, mais elle ne se concentre pas sur la place et l'influence de ceux-ci. Elle ne met pas l'accent sur les conséquences de leur absence, leur mort ou leur abandon. Mais il s'agit tout de même d'une réalité qui entraîne des comportements et des dépendances concrètes chez les personnages féminins, écrit-elle. Dans l'essai, l'autrice fait également le lien entre cette structure matrilinéaire et l'histoire du sud du continent, où, selon l'anthropologue Sonia Montesino, les hommes espagnols avaient des relations avec des femmes autochtones, celles-ci tombaient enceintes et le géniteur les abandonnait, établissant ainsi un schéma où le père absent représente l'oppression et l'abandon, tandis que la mère devient le référent de l'enfant qui reproduit le même schéma à son tour, écrit Montesino. Sauf que, encore une fois, à aucun moment dans le récit de Carvalho, l'accent n'est mis sur la figure du père absent. Bien au contraire, comme l'histoire nous est racontée par une narratrice enfant, la réalité des peintes est décrite comme normale puisque c'est la seule réalité que la fillette connaît. Toutes les voisines élèvent seules leurs filles et ces dernières sont parfois battues, comme la voisine Chichi, ici à droite. Donc, ici, Chichi est battue. Vous allez pouvoir repérer les personnages dont je parle ici. Ils sont parfois élevés dans l'interdiction de se mêler aux autres, comme celle que l'on surnomme militaire un peu plus haut, et parfois éduqués dans l'espoir qu'elles deviennent médecins, comme la Tia Adri en haut, même si cette dernière n'y parvient jamais. Si la dyade mère-fille semble définir une majorité de personnages féminins du roman, une grande importance est aussi accordée aux femmes rebelles, infidèles et parfois même meurtrières, comme la grand-mère meurtrière ici, qui jouissent d'une immense liberté. Ainsi, écrit Lula Carvalho dans son essai, l'existence des femmes est précaire mais pas anonyme. C'est justement leur mode de vie particulier dans une structure qui les opprime, qui démontre l'importance de s'organiser entre elles. Sans père, sans frère, sans mari, les femmes trouvent des alternatives. Elles partagent leur nourriture, leur argent, leur temps. Elles s'en sortent ensemble. La violence qu'elles manifestent est la conséquence d'une existence maintenue à distance de la vie active. Leur mode de vie n'offre pas d'horizon encourageant, pas d'espoir. Elles savent qu'elles sont confinées dans la marge, mais elles ne s'apitoient pas sur leur sort. Elles tentent plutôt de le défier. Fin de la citation. Et une façon de défier le sort est pour ces femmes le jeu, puisque la mère et la narratrice, dont il est dit qu'elle est amie de sa patronne chez qui elle fait le ménage, jouent aux machines à sous et à la loterie en Uruguay qui s'appelle la quiniela. dont l'autrice reproduit ici les billets. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs pour dire, j'ai amené le livre, qu'il y a vraiment toute une iconographie hein, dans le livre de Caravaggio. Ici, on a les bonbons Astra qu'elle mangeait, elle va mettre des photos reproduites donc dans le roman. La mère joue aux machines et à la quiniela pour échapper à sa condition. En fait, grâce au jeu de hasard, toutes les figures féminines du livre rompent avec les codes sociaux qui leur sont imposés. La mère-enfant peut continuer de rêver, la grand-mère Regina continue d'assumer avec puissance son corps, ses dépendances et ses plaisirs, même l'arrière-grand-mère Léo peut jouer aux cartes et vivre de ses dons de guérisseuse. Le titre « Créature du hasard » évoque d'ailleurs plusieurs symboles en lien avec cette féminité magnifiée dont on repousse les limites dans le roman. En Uruguay, on désigne les enfants comme étant des criaturas, des créatures. Mais ce mot évoque également les femmes de mœurs légères, ainsi que les nombreuses créatures féminines mythologiques, telles que les nymphes, les sirènes, les méduses, bref, toutes ces créatures monstrueuses qui n'adhèrent pas aux attentes de la société patriarcale. Le titre évoque donc la symbolique des créatures mythiques, des enfants et des femmes jugées dangereuses, comme le sont les mères monoparentales uruguayennes qui, en contexte post-dictatorial et en l'absence de tout filet social, sont livrées au hasard. Pour se guider, elles peuvent, comme le fait la narratrice, s'accrocher aux figures de femmes rebelles telles que Marilina Ross, dont la photo de la cassette est reproduite justement ici dans le livre. Mais Marilina Ross, il faut le savoir, là, c'est une grande figure de la musique argentine. C'est une militante de gauche exilée pendant la dictature, dont la narratrice, en fait, ici, ne cesse d'écouter les chansons sur sa vieille cassette. Les personnages féminins du roman peuvent également se référer à la grandiose Rosa Luna, figure mythique du carnaval Candombe, déesse noire afro-descendante célébrée dans le carnaval uruguayen, ou alors que des milliers de personnes applaudissent le défilé, il est dit par Carballo que le corps de Rosa Luna danse dans son cercueil. Donc, danseuse, chorégraphe et militante pour les droits des Noirs en Uruguay, Rosa Luna est ainsi acclamée dans le roman par la grand-mère et la petite fille, mais aussi par la foule du carnaval qui couvre son cortège de fleurs. Tout au long du roman, on sent donc un parti pris assumé pour les femmes qui refusent leur statut de victime et se battent pour leurs droits et leur dignité. Même l'enfant s'amuse avec les codes de la féminité normalisée et s'emploie à modifier sans cesse l'apparence de sa poupée. Hein. Elle reçoit une poupée à son anniversaire, je crois, et elle lui coupe les cheveux. Elle est toujours en train de la défigurer d'une certaine façon. Et donc, bien que mes recherches ne concernent pas tant les fillettes, il est tout de même intéressant de constater que la narratrice enfant de Carballo s'identifie surtout à la nature et refuse à plusieurs reprises l'injonction au code genré. Et il en va de même, du moins en partie, dans le roman de Caroline Dawson, qui met également en scène une narratrice qui raconte son enfance à la première personne et qui décrit son rapport trouble à la féminité dite « latina ». Publié en 2020, le roman de Caroline Dawson raconte son départ du Chili alors qu'elle n'a que 7 ans et l'arrivée au Québec de sa famille réfugiée en attente de papiers. L'histoire de cette famille avait déjà été racontée par son frère Nicolas Dawson dans un premier roman intitulé « Animitas » publié en 2017 chez La Mèche et qui racontait l'histoire d'un enfant chilien, de ses parents, de son frère et de sa sœur partie de Valparaíso pour la rue Ontario. Dans le récit de Caroline Dawson, l'accent est toutefois mis sur l'histoire au féminin, c'est-à-dire telle qu'elle est vécue par la fille et la mère surtout. Dès le début du roman, alors que toute la famille est dans l'avion pour le Canada, il est d'ailleurs explicité, je cite, que le père, les traits tirés et le front plissé, était trop loin physiquement et dans ses pensées pour que la narratrice puisse lui demander quoi que ce soit. Et c'est donc la mère, Natalia, qui s'occupe du soin de la fillette malade pendant le voyage, répond à ses nombreuses questions et dépose devant elle, pendant son sommeil dans l'avion, une Barbie toute neuve, fraîche, rose, propre, rayonnante, parfaite. Pas une imitation cheap, précise la narratrice, mais une vraie Barbie qui lui fait croire à l'existence du Père Noël alors qu'elle affirme ne plus croire en Dieu. À 7 ans, j'ai arrêté de croire en Dieu et en une destinée prédéterminée. À 7 ans, dans l'avion pour la première fois, j'ai fait semblant de prier parce que j'avais compris que c'était nous qui décidions, qu'on pouvait tout crisser là, recommencer une autre vie. Mais je continuais de me demander comment, si on ne pouvait rien ouvrir dans l'avion, là, toujours, le Père Noël arriverait à rentrer. Donc, ce refus de croire en une destinée prédéterminée fait écho à certains propos de la narratrice qui, beaucoup plus tard dans le roman, fera le choix d'étudier en sociologie parce que cette discipline utilise des mots comme, et je cite, « classe sociale, exploitation, capital culturel, social, symbolique, domination, mais aussi dans ses plus beaux moments, des fatalités, possibilité d'échouer au destin social ». Fin de la citation. Si, parfois en Amérique, la race est la classe, comme le rappelle une citation de Chimamanda Ngozi Adichie placée en exergue du roman, on peut donc en déduire que ce qui nous sera raconté concerne la possibilité d'échapper au destin social, mais aussi au destin racial, et ainsi déjouer une certaine fatalité. Or, plus le roman avance, plus il apparaît que les femmes latines ne sont plus sujettes à croire en cette fatalité. Le refus de croire en Dieu, qu'on voit donc apparaître dans cette citation située au début du roman, contraste très vite avec la piété de la mère qui va à l'église tous les dimanches et qui, en bonne, je cite, « latina catholique expatriée », a fait de l'inquiétude une signature, un tatouage, un mode de vie. Fin de la citation. Dans le recueil de poésie « Ce qui est tu », qui s'adresse à son fils de 7 ans et raconte tout ce qu'elle a eu l'instinct de taire, Caroline Dawson dépeint encore sa mère comme une personne pieuse, priant à voix haute et qui conserve soigneusement ses bonnes nylons pour aller à la messe. Quand Caroline Dawson parle de sa grand-mère restée au Chili, c'est aussi pour souligner qu'elle était dévote et continuellement torturée par le péché. Dans « Là où je me terre », on apprend que, ayant eu une liaison extra-conjugale avec un homme marié, la grand-mère de la narratrice tombe enceinte de Natalia, donc la mère, mais regrette aussitôt d'avoir trompé le mari qu'on lui a jadis imposé sans son consentement. Dans la prison que constituait sa vie aux limites si étouffantes, elle avait creusé une tranchée, une marge de liberté qui plus tard la rendrait folle de cette culpabilité chrétienne qui la gardait à genoux. Elle resterait toute sa vie recluse dans le trou qu'elle avait elle-même creusé en se débattant pour s'évader. Frappée de disgrâce et meurtrie par la honte, elle ne se pardonnerait jamais cet écart. À plusieurs reprises dans le roman, il est suggéré que par son exil, la narratrice a évité la fatalité qui pèse sur les femmes chiliennes. L'avortement est illégal au Chili, rappelle-t-elle, la contraception mal vue. Comme femme, qu'aurais-je dû sacrifier si j'y étais demeurée? Son féminisme n'est pas venu en regardant sa grand-mère se battre pour le droit à l'avortement, affirme-t-elle. Il n'a pas été hérité par osmose. Elle l'a plutôt arraché à la terre parce qu'il était enfoui bien profond sous toutes les vies rêvées et les espoirs déçus dont elle a été témoin, enfant, comme elle en témoigne encore ici. Je restais à la maison, en pyjama dépareillé, avec ma tante, ma grand-mère, ma mère et mon bébé frère Poupon qui ne savait pas encore marcher, rapporte-t-elle. L'ennui a commencé là, entre les tâches ménagères et les soupirs de ces femmes en tablier qui attendaient que le jour débute et qu'il se clôture, sans laisser de marque nulle part, toujours un linge à la main, enfermé dans l'éternel recommencement des lits à faire, de la liste de courses à renouveler, du porte-monnaie troué, repas à cuisiner, de la vaisselle à laver, à essuyer, à ranger. À entendre le murmure de la radio raconter le monde extérieur, à changer des couches, soigner des bobos, faire des guili-guili aux tout-petits et, dans le meilleur des cas, écouter les ragots du quartier repris mille fois par l'aimable voisine que tout le monde appelait la fêlée. Ce qui se dégage de cette description est sans doute le modèle historique de la conformité à un genre, au sein duquel, selon la féministe Françoise Collin, les femmes formaient une sorte de société immobile, vouée à la répétition des mêmes gestes, à peine infléchis par l'évolution, aimer, mettre au monde, nourrir, vêtir, soigner. Face au destin racial et à la fatalité religieuse, se greffe donc dans le roman de Dawson une fatalité genrée, celle qui empêche les femmes d'accéder au monde extérieur de la radio, ce monde où l'être individué peut laisser sa marque et donc une trace dans l'histoire avec un grand H. D'ailleurs, aucune femme chilienne ayant laissé sa trace dans l'histoire du pays ou du continent n'est nommée dans le roman de Dawson. Certes, il est mentionné que la mère de la narratrice aimait faire du théâtre pour enfants quand elle était au Chili, et une photo de jeunesse retrouvée dans le tiroir la décrit comme une femme épanouie, ronde, bruyante et enjouée, qui jouait de la guitare sans embarras devant la rue entière. Mais cette description lumineuse, là, vous en conviendrez, est tout de suite suivie du portrait actuel et assombri, dans le même paragraphe, hein, de la femme, je cite, « beaucoup plus maigre que celle du Chili, qui n'a pas touché à un instrument de musique depuis un quart de siècle et dont les mains, Javel, se tortillent et se fendillent. » Dans « Ce qui es-tu », Caroline Dawson écrit d'ailleurs ses vers à propos de sa mère. « Elle respire des toilettes à récurer. » Courbature en latrine, main Javel. On n'est pas censé faire ça du matin jusqu'à Noël, à longueur de vie d'immigrante. Pas censé faire ça, disent ses mains, à travers la bouche de leur fêlure, de leur craque polie, leur absence de gants. Ses mains Javel se replient, se fracassent. Ses mains crient l'attente en se signant de la croix. La mère, ainsi dépeinte, se fond donc parfaitement dans le portrait général des immigrantes latines qui, dans le roman, je cite, « sentent le sacrifice, la communion et l'hostie ». On pourrait croire que cette dévotion est liée à leur statut précaire et à la foi, parfois ravivée par l'expérience de l'exil. Mais le roman relie plutôt la religiosité au bas-fond de l'Amérique latine et au sort encore plus déplorable des femmes qui doivent charrier leur désir d'affranchissement comme on charrie des pénitences. Hein, c'est une citation. Les seuls moments où le personnage de Natalia n'est pas décrit comme une mère courage ayant tout sacrifié pour ses enfants ou encore comme une ménagère chez elle et une subalterne dans les foyers huppés est lorsque Natalia renoue avec sa vocation de pédagogue qui enseigne le mot « libertà » à sa fille, apprend à écrire à un réfugié analphabète et amène ses enfants à la bibliothèque du quartier. L'image de la mère à genoux devant une toilette à récurer cède alors le pas à celle d'une femme habillée chic et radieuse, une femme, oui, fière et digne, qui possède un savoir dont ses enfants n'auront pas honte. Car, même si le titre « Là où je me terre » indique le lieu d'où naît la colère, hein, qui est ce lieu où sa mère demeure humiliée, la narratrice avoue par la suite s'être construite contre sa mère qui, même si elle a une apparence irréprochable, se voit elle-même comme une pauvresse. Et cette citation-là est assez éloquente. Ce serait pour toujours sa vision profondément intériorisée d'elle-même. Elle avait beau être propriétaire d'une jolie maison à Brossard, posséder deux voitures, un garage et une piscine hors terre, ma mère s'identifiait toujours aux filles en haillons. Elle se voyait parmi les indigentes qui doivent manger leur bas. Son enfance lui avait assigné cette place. C'est là qu'elle logeait. C'est ce qui d'elle demeurait. On peut donc en déduire que cette place assignée est pour la narratrice l'endroit où la mère se terre. Et ce, malgré l'ascension sociale décrite dans le roman. Comme Annie Ernaux, pour qui la place est son standpoint, c'est-à-dire le lieu d'où elle parle, Caroline Dawson choisit d'écrire du côté des humiliés. Cependant, comme elle l'affirme elle-même, si le prix à payer pour changer de classe sociale est parfois élevé, c'est sans doute parce que la distance parcourue nous empêche progressivement de s'identifier à la culture de ceux et celles qui nous ont poussés vers le haut. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus troublant, je vous dirais, dans la représentation de la femme latino-américaine chez Dawson. C'est que le lieu, et je cite, « où il devient chaque jour plus difficile de retourner » est précisément le lieu associé à la langue et la culture latino-américaine. Alors que son fils parle couramment le français et le suédois, la narratrice précise dans le roman que son fils a compris dès l'âge de 3 ans que l'espagnol n'était que chuchotement subalterne. Pour devenir une immigrante parfaite, la petite Caroline éteint, et je cite, « la petite Latina en elle ». Elle apprend à parler sans accent et à devenir, je cite encore, « quelque chose comme une Québécoise ». Or, devenir quelque chose comme une Québécoise peut s'apparenter à devenir quelque chose comme un grand peuple. Et cette proximité avec la célèbre phrase de René Lévesque n'est pas pour moi anodine, parce qu'elle suit la trajectoire identitaire de la narratrice, qui n'est plus, et je cite, « une vraie catho de latine ». Elle n'est peut-être pas non plus une vraie latine, comme le lui dit une femme croisée à Cuba. Mais alors, qu'est-elle devenue? Si parfois en Amérique, la race est la classe, comme le rappelle encore une fois la citation de Chimamanda Ngozi Adichie, que devient-on quand on s'identifie comme transfuge? Comment peut-on quitter les siens, demande la narratrice, qui pour le coup vient introduire une variable inédite dans mon étude de la représentativité. Car s'il suffit pour moi de s'identifier comme femme pour être une vraie femme, existe-t-il de vraies femmes latino-américaines? Et si oui, doit-on les distinguer des métisses et des immigrés? C'est une question que l'on voit poindre dans le roman de Caroline Dawson, mais qui devient vraiment centrale dans le roman « La banalité d'un tir » de Malin Navia, puisque la narratrice qui relate son enfance et ses débuts à l'âge adulte est ici une latino-américaine de deuxième génération. Publiée en 2022, la narratrice de « La banalité d'un tir » s'appelle Ana López. Mais plusieurs éléments biographiques disséminés dans le roman et une photo de l'autrice et de son père placée à la fin de l'ouvrage confirment la portée autobiographique de l'histoire qui nous est racontée. Histoire très triste en l'occurrence, puisqu'on apprend au tout début du livre que le père a été assassiné à son retour en Colombie. Le livre prend donc la forme d'un récit familial dans lequel la disparition du père colombien nous est racontée d'emblée avant d'être dépliée de façon chronologique, créant ainsi, à l'instar de Gabriel Garcia Marquez qui est nommé dans le roman, des chroniques d'une mort annoncée, mais aussi une sorte d'hommage à son père disparu. Fille d'un père colombien et d'une mère québécoise, la narratrice est une métisse qui parle couramment espagnol, qui chante des chansons de Carlos Vives. Il y a plusieurs paroles de chansons qui sont comme ça, un peu saupoudrées dans le roman. Et la narratrice, toujours, a plusieurs fois voyagé en Colombie, enfant, adolescente, etc. Rentrée d'un long séjour effectué avec ses parents alors qu'elle est encore toute petite, elle se présente à son institutrice en disant spontanément « Je suis colombienne ». Or, affirmera-t-elle plus tard, aux yeux des Colombiens, je suis une blanche, une occidentale porteuse de son stigmate monétaire. Quand je suis avec mon père, ça change, je rentre dans le cercle. Il y a littéralement un univers de différence entre ces sphères. Dans l'une, je suis spectatrice, je fais partie de la pièce. C'est un grand pouvoir que de voguer entre les deux mondes, mais ça épuise. D'un jour à l'autre, je sens que je me mets à changer pour ne pas faire de vagues. J'imite ceux qui m'entourent du mieux que je peux pour devenir colombienne. Tout au long du récit, la narratrice essaie donc de voir sa part latino-américaine, tout en évitant certains stéréotypes. Car s'il est dit que les gens du Nord voient souvent le Sud comme violent, Ana associe plutôt son caractère explosif à sa mère québécoise et sa grande sensibilité à son père. Fruit du même mélange entre ces deux identités, sa sœur Paz, qui en espagnol veut dire paix, c'est aussi un prénom, donc sa sœur Paz, offre aussi une représentation différente et presque à l'opposé de celle d'Ana. On retrouve également plusieurs représentations de femmes latino-américaines dans le roman qui contribuent à diversifier leurs portraits. D'abord, les deux sœurs d'Ale, le père, qui sont restées en Colombie et qui vivent avec leur mère Amparo. Cette dernière, qui a eu tous ses enfants avec un homme marié, est d'ailleurs considérée comme veuve par le voisinage et est beaucoup plus dure, on insiste là-dessus plusieurs fois dans le roman, qu'elle est beaucoup plus dure avec ses filles qu'avec ses fils. Chaque fois qu'elle va en Colombie, Ana remarque d'ailleurs que les tâches ménagères ne sont pas également réparties et que sa grand-mère, Amparo, a tendance à couvrir les garçons de la famille. Deux autres femmes latino-américaines sont aussi décrites dans le roman. D'abord, Jimena, une Mexicaine militante communiste qui organise des soirées et héberge le père avant son arrivée au Canada, et Eugenia, une réfugiée argentine que le père connaît dès son arrivée et qui est décrite en ces termes. Eugenia ne s'est pas encore remise des tortures et des viols que la junte militaire lui a infligés. Malgré sa vie tragique et les séquelles psychologiques et physiques, elle est porteuse d'une grande lumière. Eugenia est la seule personne à qui le père répond franchement quand elle lui demande ce qu'il pense du Canada. Sa présence lui fait du bien. Leur culture est différente, mais elle sourit et celle sourit. Le Sud est le Sud et il vient avec un imaginaire distinct que celui du Nord. La distinction faite entre l'imaginaire du Nord et celui du Sud est ici intéressante parce que, une fois adulte, la narratrice affirme souvent se situer entre le Nord et le Sud et elle se définit elle-même entre deux mondes. C'est d'ailleurs ce biculturalisme identitaire qui fait l'objet de la partie essai de son mémoire, hein, qui a été fait à l'UQAM, je le disais tout à l'heure, qui s'intitule justement « La mise en mots de l'entre-deux-mondes » et qui aborde la cohabitation des identités nord-sud, envisagée non pas comme la simple addition de deux cultures, mais comme le résultat d'une soustraction ressentie dans les deux territoires, créant ainsi le sentiment d'une éternelle différence. Je ne serai jamais une des leurs, hein, et tout ce que je suis est contradictoire, affirme d'ailleurs la narratrice du roman, alors que ce sentiment est étayé dans la partie essai qui, à travers les théories de Leonora Miano et de Gloriane Saldúa, tente, et je cite, de s'affranchir de notre mode de pensée en dualité pour réconcilier les séparations, les ségrégations. Plus qu'une représentation diversifiée des femmes latino-américaines, le récit de Malina Via met donc en scène une réelle réflexion sur ce qu'est l'identité latino-américaine, puisque même le père qui revient vivre en Colombie après avoir passé 25 ans au Canada est devenu aux yeux de plusieurs un entre-deux. On dit de lui d'ailleurs qu'il a perdu sa malicia indígena, qui est comme un sixième sens indigène qu'il protégerait des dangers. On dit ça vers la fin du roman. Et encore une fois, ça pose des questions sur ce qu'est la latinité. Je terminerai peut-être avec ça. Je me suis posé la question pour analyser les représentations des femmes latino-américaines dans ces trois romans. Aurais-je donc dû me limiter aux personnages féminins qui vivent donc en Amérique du Sud? Est-ce que j'aurais dû me limiter aux femmes qui y sont nées, celles qui immigrent mais qui continuent de le visiter, de retourner dans le sud du continent? À partir de quel moment peut-on perdre ou gagner l'identité latino-américaine? Alors que mes recherches précédentes suivaient le sort de femmes latino-américaines immigrant en territoire nord-américain, ces nouvelles recherches me permettent non pas de répondre à ces questions, celles que je viens de poser, mais bien de cartographier une identité mouvante et multiple qui, même si elle reproduit parfois les stéréotypes de la femme latino-américaine dénuée d'agentivité, ouvre sur une multitude de possibilités. Certes, on constate encore une surreprésentation de travailleuses domestiques chez Carballo et Dawson, notamment. Mais on remarque également la présence de femmes cultivées et lettrées qui transmettent leur amour pour la lecture, pour l'écriture et pour des figures de femmes fortes en Amérique latine, notamment plusieurs militantes qui sont nommées et chez Carballo et chez Malina Via. Les femmes ne sont pas non plus toutes placées du côté du soin et de la sollicitude, puisque bon nombre d'entre elles, surtout chez Carballo, refusent d'endosser ce rôle ou le perpétuent de manière subversive, notamment avec la figure ésotérique de la guérisseuse qui a presque recours à la magie dans son roman. Une des constantes de la señorita et de la Latina girl étant, selon Guadalupe Cortina, d'être hypersexualisée, on remarque également qu'aucune femme, sauf la grand-mère Regina, ce qui est quand même sympa, dans le texte de Carballo, n'est décrite comme voluptueuse ni même sexy. Cela dit, et c'est peut-être la plus grande constante dans les trois romans, il est plusieurs fois question du corps des femmes dont les mêmes femmes jugent l'apparence à la télévision chez Carballo et dont on surveille le poids chez Dawson et Navia. Dans ces deux derniers romans, il est même souligné à quel point les narratrices ont dû grandir en étant traitées de « grosse brune », de « mot en haine » et de « laide » par les autres enfants. Si plusieurs types de corps féminins sont représentés dans les trois romans, L'examen du corps féminin demeure donc un point fixe autour duquel les narratrices doivent apprendre à naviguer. Peut-être que cela s'explique par le fait qu'il s'agit, dans les trois cas, de narratrices enfants qu'on voit grandir dans le récit, mais cela est peut-être aussi dû à leur volonté de questionner les injonctions au code genré et à la beauté normalisée pour se défaire de cette honte maintes fois évoquée par Navia et Dawson. Dans tous les cas, on peut toutefois saluer le fait que les femmes latino-américaines sont maintenant représentées par des personnes qui s'identifient, du moins en partie, comme latino-américaines dans le champ littéraire québécois, avec l'arrivée d'écrivaines comme Sayaka Araniva Yanes, Fiorella Boucher, Marcela Huerta, Marta Tremblay-Villao. Il y en a évidemment plusieurs autres là, que je suis de près. J'ai évidemment très hâte de voir comment les représentations donc, vont évoluer. Merci.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.